Le journal vous est présenté par Rosalie Lafarge.
Bonjour à tous. 5000 événements prévus à travers le monde. C'est la troisième grève pour le climat aujourd'hui et les entreprises rejoignent le mouvement. On leur a donné des dérivés de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Des dizaines de patients semblent avoir subi un essai clinique sauvage. Ça se passe en France, dans une abbaye. On vous raconte cette histoire dans un instant. Et puis nous serons en Russie où un chaman a été arrêté hier. Il voulait exorciser Vladimir Poutine. La planète au chevet du climat. Nouvelle grève mondiale pour le climat aujourd'hui avec des jeunes très mobilisés et des entreprises aussi. Certaines enseignes ferment et incitent leurs collaborateurs à manifester. Une attitude à la fois nouvelle et inévitable pour Ludovic Dupin du site Novetic, spécialisé en économie et finances responsables.
Un phénomène nouveau qu'on n'avait pas vu jusque-là, y compris chez les historiques engagés sur le climat. Il y a une vraie prise de conscience du rôle des entreprises sur l'attente citoyenne du changement climatique et donc de nouvelles entreprises poussent leurs salariés à être réellement actifs dans ce combat qui est devenu mondial. Et c'est une bonne chose parce que ces entreprises peuvent vraiment faire changer les choses dans leur business et chez leurs salariés.
Alors, ça veut dire qu'elles vont fermer boutiques, hein, comme les magasins Patagonia, par exemple. Mmh. Elles vendent rien ce jour-là, mais qu'elles sont, par ailleurs, elles sont, j'allais dire, vertueuses dans leur comportement.
Elles ne sont pas toujours vertueuses, elles ont encore des grands progrès à faire, soit sur leur manière de travailler avec leur chaîne de valeur, soit sur ce qu'elles vendent, mais elles font des progrès et c'est avec ce type de sensibilisation qu'elles vont s'améliorer. Effectivement, si ça reste de la com et fermer une boutique pendant quelques heures, ça ne va pas changer grand-chose au monde, mais si ce genre d'engagement s'accompagne avec un vrai changement du business model des entreprises, avec des chaînes d'approvisionnement plus vertueuses, avec moins d'importations, moins de consommation d'énergie, là on va dans le bon sens, mais on en est encore au début malheureusement chez les entreprises, en tout cas pour certaines.
Il y a à peu près 1000 employés d'Amazon qui demandent justement à rejoindre le mouvement. 1000 employés pour la justice climatique, ça c'est complètement nouveau par contre.
Ça c'est complètement nouveau et le fait que ces grandes entreprises des GAFA soient interpellées par leurs salariés sur ce sujet-là, mais sur plein d'autres, sur le plastique, sur l'armement, sur plein d'autres sujets, c'est très fort et ça marche très très bien. En tant que salarié, on a tous un rôle très fort à jouer auprès de nos entreprises pour participer à ce type de combat et Amazon, quand elle s'y mettra, ça va être un gros mastodonte sur le sujet.
Ludovic Dupin du site Novetic avec Véronique Reberotte. Parfaitement illégal et d'une ampleur rare, un essai clinique sauvage a été interdit par l'Agence du médicament. Des molécules aux effets inconnus ont été testées sur au moins 350 malades de Parkinson ou d'Alzheimer dans une abbaye près de Poitiers, Véronique Julia.
C'est une enquête de plusieurs mois qui a permis de stopper cet essai sauvage. Dans cet essai, on a donné aux patients des dérivés de mélatonine, l'hormone du sommeil, sous forme de patch cutané. Les participants subissaient des prises de sang régulières dans une abbaye proche de Poitiers, tenue par des religieuses bénédictines. Derrière cet essai, il y a le fonds Josepha, un fonds manifestement d'influence catholique, administré notamment par le professeur Henri Joyeux, militant notoire anti-vaccin, très critiqué d'ailleurs dans la communauté médicale. Le site du fonds Josepha fait état avec ses patchs d'une découverte, je cite, révolutionnaire. Sur le site, il n'est pas fait mention de cet essai clinique. Le fonds indique justement devoir en passer d'abord par l'autorisation de l'agence du médicament, tout en espérant une mise sur le marché d'ici fin 2019. Apparemment, il n'a donc pas attendu le feu vert des autorités. La NSM indique ne pas encore connaître la toxicité des produits délivrés pour cet essai. Il y a donc un risque, d'où ce message adressé aux patients concernés. Ils ne doivent plus utiliser ces patchs et ils doivent consulter très vite leur médecin traitant pour un bilan de santé. Un essai illégal de cette ampleur est rarissime, explique l'agence. La justice a évidemment été saisie.
Véronique Julia. La mise à l'amende des laboratoires qui n'anticipent pas la pénurie de médicaments. Les sanctions pourront aller jusqu'à 1 million d'euros, annonce le Premier ministre. De plus en plus de pilules manquent à l'appel. Le sénateur indépendant Jean-Pierre Decool est l'auteur d'un rapport sur la pénurie de médicaments en France.
La France ne produit plus assez. Le premier constat, c'est que les pays d'Asie du Sud-Est qui ont des normes différentes, qui ont de la main-d'œuvre à bon marché, eh bien, sont très très compétitifs sur le marché. Et je crois que certains médicaments, ne rapportant plus assez en France, eh bien, on les fabrique dans ces pays étrangers. C'est gravissime. Il faut essayer de faire revenir de l'entreprise pharmaceutique dans notre pays. Mais ça implique probablement des mesures d'incitation fiscale, des mises en œuvre de formation, parce que on ne s'improvise pas du jour au lendemain pour recréer de la production pharmaceutique. Sachons aussi, il faut qu'on y réfléchisse, dans notre pays, on a aussi de la production publique. Savez-vous que les hôpitaux de Paris et la pharmacie des armées, eh bien, a aussi son unité de production publique. Alors, naturellement, il n'est pas question de dire du jour au lendemain, eh bien, on doit se fournir en production publique, mais ça doit être mis sur la table et faire partie des propositions de relocalisation dans notre pays et en Europe, hein, je dis bien, et en Europe par des grands groupes pour essayer de mieux juguler cette problématique de rupture.
Jean-Pierre Decolle avec Stanislas Vazak sur France Culture. C'est la deuxième compagnie française à se déclarer en cessation de paiement en moins de 3 semaines. Après Aigle Azur, XL Airways demande à son tour son placement en redressement judiciaire. Sa chute a marqué le point de départ du printemps arabe. L'ancien président tunisien Ben Ali est mort hier en exil en Arabie Saoudite. Reportage à suivre dans le journal de 7h. Un chaman de Sibérie orientale arrêté. Il était en chemin pour le Kremlin, Claude Bruyot, puisque son projet, c'était d'exorciser le président russe.
Il tirait seul sa charrette à bras, transportant une toile de tente et quelques vivres. Alexander Gaboutchev, le chaman à la démarche de Dersou Zala, ne gênait pas grand monde avec son idée d'exorciser Vladimir Poutine, jusqu'au jour où, après plusieurs mois de périple, le groupe de ses sympathisants a commencé à grandir dangereusement. À Chita, après plus de 2000 km à pied en direction de Moscou, Gaboutchev, toujours vêtu d'un pantalon kaki et d'un t-shirt à l'effigie de Che Guevara, avait rassemblé jusqu'à 700 personnes sur une place, à qui il avait crié « Vivez libre, Poutine n'a aucun pouvoir sur vous ». C'est là qu'il a été considéré comme dangereux et finalement arrêté. Misha Roshin, membre de l'Institut d'études orientales à l'Académie des sciences de Russie à Moscou.
Il est pris au sérieux parce qu'on pense de l'accuser de l'extrémisme. Mais vraiment, il a formé une petite équipe des adhérents. Donc, on peut dire que c'est quand même un mouvement social. Et les gens, aujourd'hui, quand même, veulent s'exprimer vraiment, d'envoyer quelques messages au notre pouvoir.
Aujourd'hui, Gaboutchev, le chaman de Yakoussi, a été reconduit sous bonne escorte dans sa région d'origine, où il est accusé d'avoir commis un crime dont personne ne connaît la nature. Un de ses disciples a pris le relais et se dirige à son tour vers le Kremlin à pied.
Claude Bruyot à Moscou pour France Culture. L'icône roumaine de la lutte anticorruption devrait prendre la tête du nouveau parquet européen antifraude. Lors d'un vote informel hier, les États membres ont choisi Laura Codruta-Kövesi, la bête noire du gouvernement roumain Paul Kosygian.
Laura Codruta-Kövesi était devenue à seulement 33 ans la première femme de l'histoire de Roumanie procureure générale près la Cour de cassation avant d'être nommée en 2013 à la tête de la Direction nationale anticorruption. Pendant 5 ans, cette ancienne joueuse de basketball a semé la panique parmi les responsables politiques du pays. Le bilan de son action est impressionnant. Des milliers d'hommes politiques et hauts fonctionnaires se retrouvent désormais derrière les barreaux. Malgré son limogeage intervenu l'année dernière suite à une guerre sans merci menée par les sociodémocrates au pouvoir, les effets de son action ont continue à se faire sentir, car le chef de la Chambre des députés, inculpé dans une affaire d'emploi fictif, a fini en prison pour 3 ans et demi.
J'espère que cette nomination pourra représenter pour tous les procureurs et juges de Roumanie une motivation pour continuer la lutte anticorruption et pour la défense de l'indépendance de la justice.
La nomination de Kövesi à la tête du parquet européen est un nouveau coup dur pour le parti au pouvoir, mais pour une très large partie de la population. C'est une victoire.
Paul Kosygian. C'est une Coupe du monde de rugby à part qui débute aujourd'hui au Japon. Pour la première fois, elle ne se déroule pas sur le sol d'une nation traditionnelle de ce sport. Clairement, le rugby n'est pas la discipline majeure au Japon, mais ça se développe. Un Français a fait le choix de jouer au Japon, Nicolas Kraska, et Jérôme Val l'a rencontré pour évoquer la place de ce sport dans la société japonaise.
Au Japon, les clubs sont la propriété de multinationales, comme les Toshiba Brave Lupus, l'équipe dans laquelle est arrivé Nicolas Kraska en 2015. Conséquence, les joueurs sont des salariés de l'entreprise et ne sont pas des rugbymen professionnels.
Au sein de l'entreprise, en fait, ils ont une division rugby où leurs employés japonais travaillent donc à l'usine, enfin dans cette société-là, et sont détachés au rugby après le boulot ou quand la saison a commencé, sont détachés à 100% pour le club, quoi. Forcément, les employés japonais ont moins de temps de récupération que les pros étrangers.
Difficile quand le club n'est pas ancré dans un territoire de créer l'engouement. Les matchs de Top League, le championnat élite, se jouent dans des stades à moitié vides, bien loin de l'effervescence autour du baseball et du foot. Nicolas Kraska.
J'ai joué dans des stades, on va dire, à moitié vides ou remplis à un tiers. Il y a quand même une affluence de entre 6 à 8 000 personnes, quoi. Mais c'est vrai que dans un stade de 20 à 25 000 personnes, ça fait un peu vide.
Cette saison, Nicolas Kraska évolue à Shimizu, au nord de Yokohama, en deuxième division. Et même si le rugby japonais a des limites, c'est un jeu très plaisant pour lui.
La plus grande différence, c'est la vitesse de jeu et des déplacements. Ça joue beaucoup à la main, ça court beaucoup. Par contre, en termes d'impact, c'est beaucoup moins fort qu'en France.
Avec cette Coupe du Monde, l'arrivée de stars étrangères et la perspective d'un championnat entièrement professionnel dans 2 ans, le rugby japonais est en train de se construire un bel avenir.
Encore beaucoup de soleil aujourd'hui, sauf peut-être sur le sud où les nuages persistent. Le thermomètre affiche ce matin autour de 15 degrés sur la moitié nord et de 16 à 25 pour la moitié sud.